C'est toujours avec un grand plaisir qu'on
ouvre. Je crois qu'il marche pas. Ah, si.
C'est toujours avec un grand plaisir qu'on ouvre le Festival des Imaginales. Je vais évidemment dire un petit mot d'introduction, mais avant, je vais évidemment donner la parole à Michel Henrich, le maire de la ville d'Épinal, celui qui, avec son équipe, a eu l'idée de lancer ce festival et qui a mis les moyens de la ville pour créer ce grand festival, ce premier festival de fantasy d'Europe, et puis l'un des deux plus grands festivals d'imaginaire d'Europe. On est quand même très fiers de vous accueillir au bout de 12 ans à Épinal. Monsieur Michel Henrich, je vous cède la parole.
Merci Stéphanie. Je voudrais tout d'abord, bien sûr, vous souhaiter à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue ici à Épinal, et je suis très heureux de donner ce coup d'envoi des 12e Imaginales ici à Épinal. Alors cette année, quelques particularités. Tout d'abord, un pays qui est mis à l'honneur, l'Allemagne. Vous savez que nous fêtons cette année les 50 ans du traité de l'Élysée, et qui marque la réconciliation très forte entre la France et l'Allemagne. Et nous avons cette année donc un partenariat avec le Festival du Livre Jeunesse de Sarrebruck et la présence bien sûr d'auteurs allemands ici. Autre mise en avant, c'est la femme, mais la femme forte, combative, conquérante. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Et puis aussi cette année, pour la première fois, des Imaginales maçonniques avec notamment une douzaine de débats de cafés littéraires qui se tiendront au temple maçonnique qui se trouve juste de l'autre côté de la rue, tout près d'ici. Et puis, bien sûr, pour ce qui est du reste de ce festival, nous avons souhaité qu'il reste dans le même esprit de convivialité, de qualité aussi. Je crois que c'est un grand moment d'intelligence, mais sans jamais vraiment se prendre au sérieux. C'est comme ça que je caractériserais les Imaginales. Et puis, je voudrais adresser des remerciements au réseau des libraires, Lorrain, qui maintenant joue très très bien le jeu, qui l'ont toujours joué, mais ils sont de plus en plus nombreux à le jouer. Remercier également tous ceux qui permettent l'organisation du prix des Imaginales, et notamment, je pense en particulier au concours des lycéens, au concours des collégiens, et parce qu'avoir un prix qui est décerné après un vote public, un vote collectif, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est une grosse organisation et je voudrais les remercier de cette participation. Et puis, des remerciements encore aux organisateurs, à ceux à la cheville ouvrière. Bien sûr, si l'organisateur est la ville d'Épinal, j'aurais des remerciements particuliers à Bernard Viss, à Stéphanie Nico et à tous ceux qui sont le service d'affaires culturelles de la ville, tous les gens qui se sont mobilisés pour que ces 12e Imaginales se passent dans les meilleures conditions. Alors, nous n'avons pas vraiment un chaud soleil, mais enfin le soleil sera dans les cœurs. Et ça, nous n'en doutons pas un instant. Et puis, pour conclure, un grand merci à tous ceux qui sont venus ici, les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, évidemment, qui font ce festival. Et si ce festival a atteint cette notoriété, c'est grâce à eux, c'est grâce à leur disponibilité, grâce au respect qu'ils ont du public et grâce aussi à la passion qu'ils transmettent et qu'ils ont très profond de même. Excellent festival 2012. Et maintenant, je cède la parole à Stéphanie.
Un festival comme le nôtre, c'est aussi beaucoup de voyages, des voyages dans le temps, et puis une façon aussi de se retrouver chaque année. Alors c'est à la fois la tradition, mais oui, on a nos habitudes, nos cafés littéraires, nos tables rondes, nos conférences débats, et puis chaque année des nouveautés. Je vous appellerai bien évidemment à participer encore, il reste quelques places, voyez ça avec l'accueil, au petit déjeuner, au déjeuner débat, tout ce qui fait ces rencontres conviviales et de proximité auxquelles nous tenons à Épinal énormément. Alors, je ne vais pas être long, je vais tout simplement poser les questions qui s'imposent à nos invités. On parlait de femmes conquérantes, de femmes fortes, des nouvelles femmes, à la fois des femmes écrivains, on en a un certain nombre cette fois-ci, déjà les années précédentes à Épinal, et puis la place des personnages féminins qui ont évidemment bien changé depuis les années 50 et encore plus depuis les premiers textes d'imaginaire du début du siècle. Mais justement parce que notre ambition, et là je crois que je peux parler aussi pour la ville, c'est l'égalité des sexes, à la fois dans la fiction, parce que ce serait bien triste d'avoir des fictions monocolores à tous les sens du terme. et puis aussi dans la réalité de nos vies et de nos partages. Je ne vais pas commencer par donner par courtoisie et galanterie la parole à une femme, mais à un homme, Lucius Shepard, tout simplement pour le remercier. Le remercier d'être présent, d'être l'un de nos invités. Cette année, c'est un écrivain important. C'est un écrivain qui a marqué l'histoire de la science-fiction anglo-saxonne, américaine, mais aussi internationale. C'est un écrivain qui s'est mis à écrire la fantasy. Et dès qu'il s'est mis à en écrire, là aussi, il a été au top. C'est donc un des très grands écrivains américains qui, aujourd'hui, fait partie des plus grands. Et on est donc extrêmement fiers de l'accueillir à Épinal. Et je tenais à lui donner la parole en premier, aussi pour le remercier. Comme vous l'avez remarqué avec sa béquille, juste avant de venir... il s'est fait une entorse et donc, quelque part, il aurait pu annuler. Non, il a eu l'extrême gentillesse de maintenir sa présence à Épinal. Donc, un grand merci, Lucius Shepard. Alors, justement, Lucius Shepard, pour ne pas faire dans le gros Nicolcan et vous taquiner un petit peu, quand vous vous êtes passé de la science-fiction à la fantasy, est-ce que c'est parce que vous aimez la fantaisie que vous avez voulu lui donner un petit peu un renouvellement peut-être par rapport à la tradition des grands anciens, ou est-ce que c'est parce que la fantaisie aujourd'hui se vend mieux que la science-fiction? Est-ce que c'est par passion de littérature, par de la littérature, ou c'est juste par intérêt commercial, Lucius Shepard? Et ne me répondez pas les deux.
No. I like it. Really, okay.
I like it. I like fantasy, but I just don't know any. I don't know any science, so you know, it was natural that I just, you know, I got tired of fudging my science, so it went naturally to fantasy, urban horror, and things like that. You know, instead of the more technical aspects.
En fait, la réponse est que je ne connais rien, strictement rien en science, j'en avais marre de faire semblant, donc j'ai préféré me lancer dans la fantaisie, le fantastique, et
voilà. Voilà, on n'a pas répondu les deux. Ken Scholz, vous avez un parcours, comme parfois nos amis américains. Vous avez été dans deux corps d'armée et vous avez aussi été un temps pasteur. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que vous nous offrirez vendredi à midi au Magic Mirrorin un petit moment en chanson et en musique, et on vous remercie de cette proposition. Dans vos romans, entre autres le premier de votre trilogie qui a obtenu il y a 2 ans le prix Imaginal, donc dans cette trilogie, dans ce premier roman et les deux suivants, vous avez mis en avant à la fois dans ces livres de fantasy de la violence, de l'affrontement, comme parfois dans la vie et dans nos sociétés. Et puis, vous avez mis aussi de la religion, de la foi, avec des fanatiques religieux, puis des gens sincères. Est-ce que c'est justement parce que vous avez été à la fois dans l'armée et à la fois pasteur un temps que vous traitez dans votre fantaisie à la fois les affrontements, la violence et aussi les questions de religion, Ken Jones?
Bonjour. I want to first say thank you to the mayor and to Stephanie and all who've organized this event, and thank you for bringing me.
Oui, donc tout d'abord, je voudrais remercier le maire et Stéphanie et tous ceux qui nous ont permis de venir et d'être là aujourd'hui.
I had a very long and slow evolution from my time as a minister to my time now as a secular humanist, and I work in that field because it still fascinates me.
Alors effectivement, j'ai une évolution très lente de cette époque où j'étais prêtre et maintenant je suis un humaniste, mais la nature humaine me fascine toujours.
I find that in fiction, we can use it as a sandbox to play with new ideas and to think about how our world now is, how it used to be and how it could be.
Alors, je pense qu'on peut se servir de la fiction comme d'une espèce de bac à sable. On s'en sert pour voir ce que le monde est aujourd'hui, ce qu'il était avant et ce qu'il pourrait devenir.
Even now, this week in Paris, we see how the violence around change can be difficult for people with the suicide of the author at Notre Dame. I think we're dealing with very real problems that we can explore in fiction, and hopefully in fiction we can play with ideas we wouldn't play with outside of it.
Alors, effectivement, encore ce week-end à Paris, on a vu comment la violence pouvait affecter notre monde avec le suicide de cet auteur à Notre-Dame. Et je pense que c'est le genre de problème dont on peut parler dans le domaine de la fiction, et même dans le domaine de la fiction, on peut parler d'idées qu'on n'aborderait pas forcément en réalité.
La fantaisie épique avec Ken Scholz, avec quel talent, et puis une fantaisie qui à la fois utilise les thèmes traditionnels, les dragons, et puis aussi une façon un peu mythologique de la mettre en scène avec le Shepard, et une autre version de la fantaisie avec Alexandra Ivy. Cette fois-ci, on y trouve plutôt des vampires, Alexandra Ivy, des loups-garous, d'autres créatures, des sorcières, mais tout ça matiné de pas mal d'humour, d'un peu de sexe, mais aussi de sentiments. Alors, pourquoi vous avez fait le choix, Alexandra Ivy, de vous lancer dans ce qu'on appelle la fantaisie urbaine et ce qu'en France on appelle la bitlit?
Thank you, and thank you for inviting me. I'm very excited to be here, and especially excited to be here when we're celebrating strong women.
Je vous remercie. Je vous remercie également beaucoup de m'avoir invité à Épinal, d'autant plus que nous célébrons les femmes fortes.
I fell in love with vampires, with Buffy, the Vampire Slayer. Like everyone fell in love with vampires. And I decided to create my own world of vampires and expand it. And I visited Paris several years ago. And that's where I got my little gargoyle, Lavette, who brings the humor to the romance. So it was a combination of TV, of what I was watching, and my travels.
Alors comme tout le monde, pour ce qui est des vampires, comme tout le monde, moi je me suis intéressée aux vampires avec Buffy, hein, je suis sûre que tout le monde ici connaît Buffy, et je me suis donc intéressée à l'univers des vampires, et j'ai eu envie d'élargir un petit peu l'univers des vampires, et c'est en fait à la suite de mes voyages et de mes passions, de ce que j'aimais regarder à la télévision, que je me suis lancée dans cet univers, et c'est mon voyage à Paris qui m'a inspirée le personnage de la gargouille dans ma série.
Encore quelqu'un, on n'a pas interrogé Gaëlle Carigère. Alors vous, Gaëlle Carigère, c'est un cas un peu particulier. Vous nous racontez des histoires de fantaisie urbaine, alors on se dit, oh, c'est plutôt du côté d'Alexandra Ivy, mais votre monde est un monde, allez, on va dire moitié fantaisie urbaine, moitié uchronie de science-fiction. Vous êtes personnage principal, Madame Tarabotti, Alexia, elle est très originale puisque c'est à la fois une victorienne, donc un peu corsotée, et en même temps une femme puissante et énergique dont on reparlera évidemment tout au long de ce festival, et en même temps une femme parfois un peu... Enfin, qu'elle aime les hommes, voilà, ça arrive. Bref, vous nous créez un personnage érotique, pas au début, mais au fur et à mesure des romans, un personnage qui a de l'autorité face à des hommes pourtant eux-mêmes forts, une femme qui n'hésitera pas à enquêter comme un véritable détective privé, un univers très british, un univers décalé. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce fouillis complet, Gaëlle Carigère? Qu'est-ce que c'est que cette rupture avec la tradition qui est... Quand on fait de la science-fiction, on fait de la science-fiction. Quand on fait de la fantaisie urbaine, on fait de la fantaisie urbaine. Quand on fait un monde uchronique, on fait un monde uchronique. Et vous, vous mélangez tout ça. Et en plus, vous avez des succès. Vous faites comment, Gaëlle Carigère?
I know, it's terribly frustrating for everybody. Hi, everyone. Thanks for having me. I'm sorry, I don't speak any French. I apologize. Alexia is... what we would say, everything but the kitchen sink. It is a British phrase. It means I threw everything into a pot, like a stew that I loved, and mixed it all up to write a book. And I thought no one would like it except me, and I thought no one would buy it because nobody would know where to put it on a shelf or how to market it. But everyone, there are more people like me than I thought. And I guess I wanted everything in one place. I wanted it to be historical, and I wanted it to be romantic. I wanted it to be urban. I wanted it to be funny. So I wrote it that way.
Alors oui, c'est frustrant. Hein. Donc tout d'abord, bonjour, merci et de m'avoir invité. Et je suis vraiment navrée de ne pas parler français. Alors effectivement, Alexia, c'est un peu comme une grande marmite. J'ai tout mis dedans et j'ai remué. Et voilà le résultat. Je pensais que personne n'aimerait, je pensais que personne n'achèterait ça, principalement parce qu'on ne saurait pas sur quelle étagère le placer dans une librairie de toute façon. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plus de gens qui me ressemblent que je ne l'aurais cru. Et je pense qu'en fait, bah, voilà, je voulais écrire un livre qui était à la fois historique, romantique, qui était un peu de l'urban fantasy et qui soit drôle. Et bah, c'est ce que j'ai écrit.
Ben voilà, nos amis anglo-saxons sont là. Tout de suite, on est parti dans plein d'univers différents. Alors, je me permets d'excuser évidemment l'absence, mais juste pour quelques heures ou pour une journée ou deux dans le cas de Nina Blason. Nos invités allemands vont arriver dans la journée. Pour Nina, ça sera seulement samedi parce que nous la partageons avec nos amis de Sarrebruck. C'est ça aussi les partenariats, on se partage les auteurs. Et puis Alastair Reynolds, l'auteur britannique, qui arrivera lui tard ce soir et qui sera donc présent au festival à partir de demain. Vous voyez que la diversité des pays, comme d'habitude, est présente au festival. Mais on vient d'accueillir là donc des écrivains américains avec beaucoup de bonheur. Et maintenant, je vais me tourner vers la française de cette table. C'est Samantha Bailly. Alors, j'espère qu'elle ne se sent pas trop seule, entourée de ces grands écrivains américains, déjà connus et reconnus. Mais ce n'est pas non plus n'importe qui, Samantha, c'est le coup de cœur 2013 des Imaginales. Vous savez, pour aller vite, parce que je crois que vous êtes tous au courant, chaque année maintenant, depuis 10 ans, c'est d'ailleurs pour ça qu'on aura cette année une petite anthologie qui arrive cet après-midi, que j'ai eu le plaisir de composer, qui est les 10 coups de cœur du festival, anthologie qui prend place à côté de l'anthologie annuelle, que là vous retrouvez d'année en année depuis 5 ans, et que Sylvie Miller et Lionel Davoust ont constitué, et qui s'intitule, qui peut déjà vous donner envie, Elfes et Assassins. Eh bien, ce coup de cœur, c'est tout simplement un coup d'éclairage particulièrement fort de la vie de la ville d'Épinal sur un écrivain ou une auteure française qui est déjà connue des professionnels, que nous avons repéré. Et dans le cas de Samantha Bailly, je salue Véronique Barre, la coordinatrice du prix Imaginal des lycéens, qui l'a repéré avant moi, qui l'a lu un peu par hasard et qui m'a dit: Stéphanie, il faut absolument que tu lises ce livre. Je pense qu'on devrait le mettre dans la sélection du prix Imaginal des lycéens. Résultat, c'est ce qu'on a fait. Résultat, elle a obtenu en 2011 le prix Imaginal des lycéens pour un premier roman face à pourtant des vieux crocodiles du milieu qui avaient des sacrés bons bouquins à côté. Donc c'était quand même une bonne façon de rentrer en littérature, ce qui a évidemment attiré l'attention d'éditeurs, puisqu'à l'époque elle n'avait que 22 ans, elle en a 24, c'est donc une de nos Benjamines. Et Samantha très vite s'est imposée. Aujourd'hui elle est signée, elle publie chez Bragelonne et Milady, et quand même les poids lourds de l'imaginaire en France. Elle va publier à la rentrée des ouvrages chez Syros et aussi, si je ne me trompe pas, chez Rajo, voilà. Et puis elle a plein d'autres projets, mais il est trop tôt pour en parler. Donc voilà, Samantha, à 24 ans, a fait le choix de quitter Ubisoft, les jeux où elle travaillait, pour être écrivain à temps plein. Voilà, c'est l'écriture qui l'a toujours passionnée, toute jeune. C'est l'écriture qui maintenant est sa vie et son travail. Et c'est courageux de se lancer et de dire: je ne vais faire que ça, je n'ai pas trop de filet, mais tant pis, j'y vais parce que je pense que le public va me suivre. En tout cas, nous, Samantha, on vous suit déjà. Nous, on encourage tout le monde à lire ce qui nous lie, votre nouveau roman que j'ai tout juste commencé à lire puisqu'il m'est arrivé il y a très peu de temps. Et puis Oraison, l'intégrale qui a obtenu le prix Imaginal des lycéens en 2011, un roman de fantasy passionné avec des affrontements, avec un crime, avec deux sœurs qui réagiront chacune à leur façon pour faire justice, avec un monde où il y a des fanatiques religieux, il y a des croyances sincères et il y a aussi un certain nombre d'hypocrites qu'il s'agira de démasquer. Enfin, plein de choses pour une auteure si jeune et qui débutait dans le métier. Vraiment beaucoup, beaucoup de passion. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur Samantha. Je tenais à vous la présenter parce que, à la différence de nos amis anglo-saxons, elle est encore jeune dans le métier, mais vous pouvez prendre le risque de vous précipiter. Je vous conseille vraiment, si ce n'est pas déjà fait, de vous procurer Oraison et puis de regarder ses autres ouvrages, y compris pour jeunes lecteurs. Vous verrez, c'est vraiment un univers déjà extrêmement mature, extrêmement passionnant, qui tient bien la route face aux grands professionnels qu'on a dans ce festival. Voilà ce que je voulais dire. Donc, le coup de cœur, C'est au moins un débat, parfois deux par jour. C'est une page complète dans le suprême programme.
Il n'a pas le droit de parler ?
Non, après. Et c'est une passion. Mais si, Samantha a le droit de parler. Elle a le droit de parler. Mais je tenais vraiment à insister, parce que pour nous, c'est extrêmement important. Alors, Samantha, qu'est-ce que ça fait d'être le coup de cœur du festival ? Avec ça, si elle arrive à prononcer deux mots, c'est une vraie professionnelle.
Alors, pour moi, les imaginales, c'est de toute façon, depuis 2009, un rendez-vous annuel vraiment très important. Ça a été des rencontres professionnelles marquantes et c'est notamment grâce aux Imaginales que je suis aujourd'hui chez Brage Jeune puisque j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Stéphane Martin l'année dernière à la même époque. Vraiment deux minutes où il m'a dit envoie-moi ce que tu fais et donc j'ai envoyé. Et aujourd'hui, un an plus tard, je suis là, maintenant auteur chez eux en ayant publié les romans qui me tiennent le plus à cœur. Donc c'est vraiment une belle façon de, on va dire, boucler la boucle. Et ensuite, c'est aussi les imaginales, on le sait, on le dit beaucoup, mais je crois qu'on ne le dit jamais assez, des rencontres humaines formidables, des amitiés qui se créent, et tout un échange, un dialogue vraiment convivial, chaleureux, qui incite toute cette magie. Donc, être coup de cœur cette année, évidemment, je suis très honorée, très émue, et voilà, j'ai hâte surtout de démarrer cet imaginal.
Merci Samantha, et voilà notre premier tour de parole avant de revenir à nos amis américains. Merci pour elle. Il y a deux auteurs que je vois là-bas, que je distingue tout au bout, qui étaient très sages jusque-là, Alexandre Dinche et Magali Villeneuve. Alors vous, vous avez commis quelque chose qu'on voit derrière nous, c'est-à-dire l'affiche de ces Imaginales 2013. Je crois que c'est, ouais, oui, je sais, c'est la première fois que deux auteurs à la vie, comment on dit ça déjà, à la ville, hein, puisque vous êtes en plus très liés tous les deux, voilà, mais c'est pas un secret de dire que vous êtes un couple, c'est d'ailleurs un des sujets d'un des cafés littéraires couple littéraire, donc vous exprimerez sur ce sujet comment on travaille ensemble quand on a des relations personnelles et qu'on partage une vie. Vous avez là partagé une affiche, c'est-à-dire que chacun avec votre style, vous vous êtes fondu pour créer cette affiche. Bernard Wyss, le directeur du festival, vous a repéré. Moi, je vous connaissais individuellement. Et Bernard a eu l'idée tout à fait géniale, parce que le résultat, il est derrière vous, et franchement, et bravo, c'est de vous associer et de vous faire travailler et de créer cette affiche tout à fait superbe. On dit ça chaque année, mais c'est vrai que c'est une des très, très belles affiches du festival. Alors, racontez-nous comment on est venu vous proposer ça. C'était relativement nouveau, parce que vous travaillez chacun de votre côté d'habitude. Et comment ça s'est constitué, cette affiche à deux?
C'est vrai qu'effectivement, c'était vraiment pas une démarche à laquelle on était habitué, parce que d'ordinaire, on ne travaille pas ensemble, et surtout, on a à cœur d'être bien distingués dans notre métier pour réussir à exister chacun individuellement. Et on avait beaucoup aimé la proposition de Bernard Wyss, alors à deux égards. Un premier extrêmement terre à terre, hein, qui n'est pas l'essentiel, mais c'est vrai que ça nous permettait de réaliser cette affiche à un moment où on avait peu de temps pour la réaliser à cause de notre planning à côté. Mais surtout parce que c'était vraiment une première et on voulait voir ce que ça pouvait donner. Et donc on s'est partagé le travail assez simplement, c'est-à-dire on s'est partagé le travail selon nos forces personnelles. La force d'Alex étant la composition et les décors et ma force à moi étant les personnages. On commençait à déduire un petit peu comment ça s'est passé. Voilà. Et donc ça a donné au final quelque chose d'assez homogène parce qu'à la base on n'a pas non plus des styles très différents, ils sont relativement proches. De fait, la symbiose s'est faite assez naturellement.
Merci. Revenons rapidement à nos auteurs américains. Les anglo-saxons ont une formule qui est, alors pardonnez mon très mauvais anglais, characters first.
Il n'a pas le droit de dire quelque chose.
Vous croyez ? Il veut parler ? Vas-y Alexandre. Voilà. Moi je pensais que dans un couple, il y en a un des deux qui parlait, l'autre se
plaisait. Elle avait tout dit. Donc ça
va. Sauvé. Merci Alexandre, je te revaudrai ça. Madame Carrigère, vous n'en sortirez pas comme ça. Je disais que nos amis anglo-saxons emploient une formule qui est characters first, les personnages d'abord. Et bien justement, parlez-nous de cette très étrange Alexia Tarabotti, le personnage principal, central de vos romans.
Alexia is very strange in that in my universe, I created Victorian scientists, steampunk scientists, who define her as soulless, which means that she has this ability to essentially cancel out the supernatural. And I just love the idea of writing a character whose whole ability was in her ability, her being able to negate other people. So she has no particular skill of her own, but she can dumb down everyone around her.
Alors effectivement, Alexia est un personnage assez bizarre dans un univers très particulier, c'est l'époque victorienne, rempli de scientifiques steampunk, qui la qualifie de sans âme. Alors le fait qu'elle soit sans âme, ça lui permet d'annuler en fait les pouvoirs des autres personnages, les loups-garous et les vampires. Et justement, j'aimais vraiment cette idée d'avoir un personnage dont la seule capacité était de rendre les autres moins forts. Elle, personnellement, elle n'a pas de don particulier, hormis d'empêcher les autres d'être trop forts.
And as a character, the side effect of this is that she is extremely practical. So, or pragmatic, perhaps? And so she sees the world differently. And this makes her very comic, because in situations where most people would respond emotionally, she responds always with logic. And that is fertile grounds for comedy.
Alors, il y a un effet secondaire au fait qu'elle n'est pas d'âme, c'est qu'elle est très pragmatique. Alors, elle voit le monde d'une façon totalement différente des autres. Et là où les gens, dans des situations où ils répondraient par des émotions, elle va être hyper logique, et du coup, c'est assez comique.
Toujours les personnages, Alexandra Ivy. Je dirais que dans vos romans, on trouve à chaque, puisqu'il y a un titre qui est en fait un nom de personnage, on retrouve des personnages qu'on va suivre tout au long, puisque chaque roman est indépendant, mais néanmoins dans une série. Et chaque titre qui donne le nom d'un personnage montre que pour vous, les personnages sont évidemment importants. Mais vous avez quand même un personnage central, une jeune femme, surnommée le Calice. Et en fait, quand elle devient forte et puissante, c'est par accident. Comment on fait qu'un personnage voué à avoir une vie tout à fait traditionnelle et classique se retrouve brusquement, parce qu'il se produit quelque chose à proximité, elle se retrouve investie de pouvoir, ça ne doit pas être facile à vivre.
I like to take someone who's very common, who's leading a very common life, and then put them into extraordinary situations. So they have to grow, and they have to change, and they have to evolve into the story changes them along the way.
J'aime bien partir d'un personnage qui est une personne tout à fait ordinaire et placer cette personne dans une situation extraordinaire. Donc le personnage doit évoluer, doit changer pour faire face à cette situation.
I think most of us who write were readers at one time, and that we all sat in our rooms or went about our lives and wish that something extraordinary would happen for us and put us into this fantasy world that we could live. So I can't do it myself, but I can make my characters, I can give them the opportunity to be in extraordinary situations and meet yummy vampires and have the life that I would like to have.
Comme beaucoup d'auteurs, je pense que nous sommes d'abord des lecteurs. Et moi, ce qui m'amuse avant tout, c'est de parler de choses extraordinaires auxquelles, en tant que lecteurs, nous aurions voulu aspirer. Enfin, nous aimerions qu'il nous arrive ces choses-là. Et donc, comme ce n'est pas possible de me mettre moi dans cette situation-là, je place mes personnages dans cette situation-là. Et donc, pour mes personnages, ça devient possible de rencontrer des beaux vampires et d'avoir une vie rêvée, peut-être un petit peu la vie rêvée à laquelle moi j'aurais aspiré en tant que lectrice.
Ken Scholz, quand on entre dans Lamentation et les autres romans de votre trilogie, enfin, en tout cas cette trilogie parue en France, aujourd'hui un quatrième volume qui est déjà paru aux États-Unis, on est non pas perdu, mais surpris, puisqu'on est plongé dans toute une série de personnages. C'est un roman qui démarre comme un roman polyphonique, un roman mosaïque, où l'univers se construit à petites touches à travers des personnages qui vont s'entrecroiser de chapitre en chapitre. Pourquoi vous avez fait, Ken Scholz, ce choix ambitieux et difficile pour un premier roman, construire un univers à partir de petites touches de personnages et de leurs actions?
I can try to project, but Lamentation was my first novel and a grand experiment. I never imagined anyone would read it, and I was very surprised when it turned into a 5-book contract and the pre-imaginal and everything that followed. I chose to use an ensemble because of Joss Whedon with Firefly and how he took his characters and created them and told his stories through their lives. I also think that the best tool for the suspension of disbelief is to stay very true to the point of view of each character and to slowly unfold the world rather than having long descriptions of the world, to see it through their eyes so that it feels more real.
Alors effectivement, ce premier roman était une expérience. Personnellement, je ne pensais pas que qui que ce soit le lirait. Alors quand ça s'est transformé en un contrat de cinq romans et que j'ai eu le prix Imaginal, franchement, ça m'a beaucoup surpris. Alors pourquoi j'ai décidé de faire comme ça cette mosaïque de personnages? C'est dû à Joss Whedon et son roman Firefly, où il avait beaucoup de personnages également, et on voyait le monde à travers leurs yeux. Et je pense qu'effectivement, c'est très important pour que les gens suivent l'histoire, plutôt que de faire de longues descriptions du monde, qu'on voit le monde à travers les yeux des personnages et voir comment eux, ils envisagent leur environnement.
Oui, Samantha, comme une seule intervention. Être là pour parler beaucoup, Samantha. Samantha, comment vous avez eu l'idée avec Oraison, donc le roman qui a obtenu le prix Imaginal 2011, qui vient de ressortir donc chez Bragelonne en intégrale. Comment vous avez eu cette idée de bâtir le roman autour de ces personnages de deux sœurs confrontées à un drame et qui vont réagir totalement différemment?
En fait, tout à l'origine, quand j'ai commencé à écrire Oraison, ce qui m'est venu, c'est le mot Oraison que j'avais entendu prononcer pendant un cours de philo. Donc, je remercie ce prof de philo de l'époque, il ne le savait pas, mais qui a planté une graine d'imaginaire. J'ai développé ce concept de l'oraison, de cette idée d'un rituel funéraire qui serait à la fois un discours d'éloge funèbre, mais en même temps une sorte d'acte magique qui permet de conserver l'âme des gens. Et ensuite de la revendre, tout un aspect mercantile lié à ça. Et j'ai voulu inscrire deux sœurs, mais dans des univers vraiment très très différents. Je m'exerçais au policier à côté, donc c'est comme ça qu'est née Eline. Je l'ai prélevée de nouvelles que j'étais en train d'écrire et je l'ai mise dans ce roman-là. Et Nouni, qui elle est plutôt la religieuse de la famille. Donc c'est ainsi qu'est né le roman. C'était vraiment une base conceptuelle et que j'ai ensuite travaillé au niveau des personnages en essayant de donner deux personnalités vraiment très différentes, une dans une sorte d'autodestruction permanente et l'autre qui essaye de se construire. Donc ça donne l'ordre et le chaos, chacune à la manière.
Les personnages, c'est évidemment des personnages sur le papier, des personnages qu'on imagine, même si l'écrivain nous porte de phrase en phrase, de rebondissement en rebondissement, mais des personnages de papier, c'est vraiment le mot juste pour une affiche, une illustration. Alexandre Dinch, Magali Villeneuve, comment vous avez construit et imaginé ces deux personnages qui font l'affiche, c'est-à-dire cette femme, visiblement magicienne, et puis ce petit dragon?
En fait, on l'a construite au fur et à mesure avec l'aide de Bernard Viss qui nous a dirigés pour cette illustration. À la base, pour ce qui est de notre travail quotidien, on a une légère tendance à faire des choses un petit peu sombres. Et c'est vrai que les premières propositions pour l'affiche étaient un petit peu dans cette tendance, avec des personnages plus masculins, en armure, des choses comme ça, et autant de choses qui ne collaient pas des masses, enfin pas suffisamment, avec l'esprit des imaginales qui était plus féerique, plus familial aussi. Raison pour laquelle on s'est dirigé vers un personnage féminin. Et finalement, ça tombe bien, puisque la thématique était la femme, mais à ce moment-là, on ne le savait pas, donc c'était un heureux hasard. Et c'est comme ça qu'on est venu à construire ce personnage à la fois de magicienne, de guide, qui véhiculait ce côté magique des imaginales avec quand même une part de mystère qui restait un petit peu, comment vous dire, cette petite touche un peu mystérieuse qui rappelle notre style de base. On ne sait pas trop qui est ce personnage.
Alexandre, j'ai entendu les consignes, je ne vous oublie pas cette fois-ci. Le dragon.
Le dragon, c'est pas moi non plus. Simplement, Bernardis nous a demandé de créer une sorte de petite mascotte qui rappellerait un peu, si on regarde toutes les affiches, les imaginaires, il y a forcément un petit personnage sympathique qui rappelle voilà, l'affiche de l'année. Voilà, on a
pensé au
dragon parce que le dragon, voilà, c'est
imaginaire. Les dragons, justement, je sépare de. C'est pas votre personnage principal dans le dragon griol. Vous avez déjà alors, roman par nouvelle, recueil de nouvelles, puisque vous avez commencé à écrire ces textes il y a très longtemps. Je me souviens, toute jeune, les avoir lus dans l'art du fiction. L'homme qui peignait le dragon griol, donc ça ne me rajeunit pas. Et puis ce recueil, vous le savez, a obtenu le prix Imaginal en catégorie nouvelle l'an dernier. Et vous venez de publier cette fois-ci un roman que j'ai tout juste débuté parce que je l'ai reçu il n'y a même pas 48 heures. Ce roman qui est en fait un roman que vous allez publier ensuite dans le monde anglo-saxon, mais qui fait aujourd'hui sa première sortie mondiale à Épinal. C'est-à-dire que vous avez eu l'extrême gentillesse, le Chuch Shepard, de nous faire ce cadeau. Votre éditeur a joué le jeu, et je remercie aussi évidemment Jean-Daniel Breck, qui est votre traducteur à l'oral, mais qui est aussi depuis longtemps l'un de vos grands admirateurs, comme moi-même, et puis votre traducteur, et qui a fait un tour de force pour livrer sa traduction, une traduction de qualité, parce que vous êtes aussi un styliste, je tenais à le dire. Alors, le Chuch Shepard, pourquoi avez-vous choisi de consacrer, sinon des dizaines d'années de votre vie, du moins régulièrement de revenir à ce personnage de dragon griol, dont en fait les autres parlent beaucoup, mais qui s'exprime fort peu lui-même. Expliquez-nous ça.
The dragon isn't really a character. I mean, I modeled him after one of my country's ex-presidents. And but he's not really a character, he's more of a canvas against which other characters play out their lives. He's a set of rules, a set of conditions, you know, against, like, you know, a president or a god or something like that. And, why I've come back to it, I mean, you know, I guess, you know, because it was the most popular character I've had, and so I came back to it, you know, but, you know, so that's it.
A better translator.
En fait, le dragon n'est pas vraiment un personnage, c'est un symbole, un ensemble de règles, une toile de fond devant laquelle les personnages s'agitent, ont leurs relations, etc. Bon, il m'a été inspiré en fait par un ancien président des États-Unis, par Ronald Reagan. Et voilà. Et pourquoi j'y reviens régulièrement? Parce que c'est la plus populaire de mes créations.
Yeah, I guess, you know, the main reason that, you know, come back to him again is because people seem to like the stories, and there's an endless variety of stories that I have that I can tell about the dragon, so it's,
En fait, il y a tout un tas d'histoires que je pourrais raconter sur ce dragon, donc j'y reviens régulièrement, il n'est pas interdit que j'y revienne encore.
Voilà. Et bien, je crois qu'on a commencé à vous donner une petite idée de ce qu'on va aborder aux imaginales. Vous savez que chacun de nos invités anglo-saxons ici présents se verra consacrer un café littéraire de 50 minutes. Je ne vous cache pas que les collaborateurs se sont battus pour se répartir les auteurs parce que tout le monde avait envie. J'ai donc dû renoncer à animer le débat avec Gaël Carrigère. Je le regrette parce que j'avais lu tous ses bouquins exprès. Mais bon, il faut parfois faire plaisir aux collaborateurs et je pense qu'ils vont passer un très bon moment. J'aurai moi-même le plaisir d'animer le débat avec Alexandra Ivy et avec le juge Shepard, quand même aussi se faire plaisir de temps en temps. Voilà, vous allez découvrir tous ces auteurs. Je verrai aussi avec Samantha Bailly comment on peut aujourd'hui construire des mondes de fantasy et d'autres types romanesques quand on est une jeune auteure française de 24 ans et comment on a envie de faire partager ces univers aux lecteurs. Voilà, on est parti, vous voyez, comme chaque année dans ce coup d'envoi, extrêmement tranquillement, chaleureusement. Tout de suite, les sujets abordés, ben, je crois que ça vous passionne comme moi. Et je pense que nos auteurs ont beaucoup, beaucoup à dire. On les remercie très fort d'être là. Et puis, avant de vous laisser découvrir la bulle du livre, pour certains auteurs qui viennent d'arriver, récupérer leurs dossiers, voir tout à l'heure les débats avec les auteurs du prix imaginal des collégiens et des lycéens, pour conclure ce petit coup d'envoi, monsieur le maire, heureux pour ces imaginales 2013?
Écoutez, je nage dans le bonheur. Très heureux et puis surtout excellent festival et que l'on conserve cette ambiance à la fois conviviale mais aussi empreinte de beaucoup d'intelligence. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Samantha Bailly, c'est que c'est aussi une aventure humaine, c'est des échanges entre les hommes et je crois que c'est ce qui fait la force de ce festival. Alors vive la 12e édition du festival. Excellent festival à vous toutes et à vous tous. Merci.